maladie, va falloir faire tout seul.
Pas du tout ouais. Installé les gars.
T'as mis
le
générique déjà ?
Bah ouais, c'est dit, il n'y a plus de retour studio. Mets ton casque, Patrice. Patrice donc qui est avec nous dans Imaginaire sur le 100.5 pour nous parler d'une célèbre série télé, on n'en dit pas plus. Karine, elle a l'air presque prête. Alors toutes ces pages et pages de notes, mais rapproche-toi du micro. Dis un truc genre coucou Angers.
Coucou.
Salut Karine. C'est juste pour voir si je t'entendais.
Pierre-Marie est en train d'enlever sa cravate. Il sort complètement du taf. Et puis, hop, attends, est-ce qu'on entend quelqu'un au téléphone ? Est-ce qu'on l'entend ? Allô ? Oh là là, on entend trop pas fort. Allô, allô ? Voyons, ouais. Ouais, il va falloir qu'on monte un petit peu ça. C'est qui qu'on entend très très faiblement au téléphone, Sébastien ?
Appuie sur le bouton, alors. Sébastien, pour monter le son, toi qui sais faire.
Lequel ?
C'est le...
Il y en a qu'un, il est là. Hein.
La table.
Ouais, regarde, je suis à fond. Hein.
Ah ouais ? Voilà.
Allô, allô, allô ?
Allô ? Moi, j'entends pas.
Il est loin, quoi. C'est qui est loin comme ça ?
Ah bah là, c'est Bertrand Puard, normalement, qu'on a à l'antenne. Et là, le téléphone...
Ouais, il essaye de faire quelque chose pour qu'on l'entende plus. Là ? Allô ? Allô ?
Je vais essayer avec un téléphone fixe, sinon.
Ah, ça c'est pas mal, là, madame.
Là, on t'entend carrément plus fort.
Ouais, là,
nous
c'est
aussi.
Mieux, là, ouais.
Là, vous m'entendez mieux, là ?
Ouais.
Ce serait bien de voir quand même qu'on l'entend aussi là-bas, ouais.
Bon, on va faire un check tout. Pour qu'on entende bien sur la radio.
Donc,
les auditeurs.
Non, mais c'est bon, bonsoir.
Ouais, les auditeurs.
Les auditeurs en direct, c'est la joie du direct.
Ouais, c'est la joie du direct.
Tous
donc,
les trucs techniques.
Et là, vous entendez justement la voix de Bertrand Puard. Donc,
bonsoir
à toi. Merci à toi d'être donc des nôtres. Donc là, on va parler de la toute nouvelle série d'aventures à jouer, Cluedo Enquêteur. Deux tomes à ce jour, dont le dernier en date du mois de septembre chez Hachette Jeunesse. Et ça va être sous la loupe, les amis, sur le 101.5.
Et on se met ton petit jingle, Sébastien.
Et mon petit jingle. Donc, re-coucou. Donc, toujours avec Bertrand Puard, donc, qui va nous en révéler un petit peu les recettes de ces Cluedo enquêteurs. Alors, je signale à nos auditeurs qu'il est déjà auteur de plusieurs livres interactifs prisés de la collection 30 minutes pour survivre. Alors, je te remercie d'autant plus, Bertrand, d'être des nôtres. Comme tu m'as dit, revenir tout juste d'un festival, le 26e festival du Polar de Cognac. Un rendez-vous incontournable pour toi.
Et, ah oui?
Et tu as été juré d'ailleurs lors de cette édition. Et peux-tu me dire quel coup de cœur littéraire et audiovisuel en compétition au festival t'aurais à nous partager en quelques mots ?
Alors, le festival effectivement Polar de Cognac, c'est un incontournable des festivals en France, et je dirais même en Europe d'ailleurs pour ce qui est du polar, pour la simple et bonne raison qu'il réunit toutes les disciplines du polar, c'est-à-dire évidemment le littéraire avec une sélection d'auteurs qui concourent à des prix. Il y a un prix BD, il y a un prix roman, il y a un prix roman étranger, mais il y a aussi une très belle sélection de films, de longs métrages, de courts métrages, de séries télé et de films militaires télévision autour du polar. Et donc c'est un festival complet qui se déroule donc à Cognac, donc le troisième week-end d'octobre. Ça, c'est une date qui ne change pas. Et mes coups de cœur de cette année, bah, j'aurais envie de citer peut-être le gagnant du long métrage, le gagnant donc de la sélection long métrage, qui s'appelle Poulet frites, qui est un film belge, ou plutôt un doc belge, réalisé par l'équipe qui a fait Striptease, qui est une émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, une émission qui a fait les beaux jours de la télévision belge et qui passait également en France. Et donc là, on suit pendant une heure et demie une enquête des enquêteurs de la police judiciaire de Bruxelles qui mène une enquête, et on est vraiment au cœur de tout ça. C'est passionnant.
D'accord. Donc des enquêteurs justement qu'on retrouve dans tes Cluedo là. Et donc c'est les derniers Cluedo en date. Cyber enquête au manoir, c'est le premier. Et Avis de tempête chez le noir, c'est le nouveau là qui est sorti en septembre. Et ça fait suite, dis-moi quand même, à 19 autres enquêtes criminelles cluedesques menées, sorties depuis 2012. Donc c'est une série quand même qui date.
Ouais.
Et qui dure en plus. Et ce qui m'intéresse, c'est que là, on a vraiment, donc Patrice, de nouvelles technologies et de méthodes policières qui sont là pour confondre les meurtriers dans la série Enquêteurs. Et bon, habituellement, on a le docteur Lenoir, qui est la victime préférée de la collection Cluedo. Mais Patrice, tu souris, mais dans un des Cluedo de la collection, ce n'est pas le docteur Lenoir qui meurt. D'ailleurs, là, c'est un mort bien suspect dans Cyber Enquête au Manoir. Et il forme un couple des plus aimants avec le colonel Moutarde. Et dis-moi, Bertrand, du haut de ton expérience dans le polar, qu'est-ce qui t'a plu à revisiter tellement les codes habituels de jeux Cluedo, voire les moderniser ?
Alors, c'était exactement ça. L'idée, c'était de moderniser. L'idée, c'était de s'autoriser plus de choses. Enfin, moi, j'aime bien jouer en fait avec les classiques. J'ai un côté un petit peu iconoclaste. J'avais fait une série parodique il y a très longtemps de ça qui s'appelle Les Mystères de la Tamise, qui revisitait un peu les mythes de Sherlock Holmes, Hercule Poirot, voilà. Et là, l'idée du Cluedo, c'était d'abord de faire à chaque aventure un enquêteur différent. Donc là, on a effectivement un cyber enquêteur, on a, c'est-à-dire qu'un enquêteur qui analyse les ordinateurs pour trouver la solution, on a un légiste, et puis il va y en avoir un prochain où le l'enquêteur sera agent secret, donc sera une sorte de James Bond, voilà, qui va mener l'enquête au manoir et qui donc va utiliser des tactiques un petit peu d'agent secret. Donc en fait, ça permet, et ça c'est l'interactivité qui permet ça, l'interactivité permet au lecteur de choisir s'il veut mener son enquête classiquement à la Cluedo, ou s'il veut mener son enquête un petit peu moins classiquement en utilisant les techniques de sa profession d'origine. Et en ce qui concerne le docteur Lenoir, effectivement, avec le colonel Moutarde, bon, c'est des petits clins d'œil comme ça, des petites évolutions que je trouve intéressantes. Et d'ailleurs, on est suivi chez Hachette par le concepteur du jeu, enfin par le gestionnaire de la licence Cluedo, qui se montre ouvert à ces évolutions, bien évidemment, et je pense que ça apporte de la modernité aussi à la marque Cluedo, qui est une marque quand même qui date aussi encore bien avant la série de livres.
Oui, et puis on voit que justement c'est bien cette ouverture. Et là, tu soulignais le manoir, et je tiens quand même à le dire que là, il est vraiment encore plus décrit qu'à l'accoutumée sous ta plume. Et en quoi le manoir pour toi participe-t-il à la chasse au suspect du meurtre du docteur Lenoir ?
Bah, c'est vrai que dans le jeu de société Cluedo, les pièces, alors bon, la pièce évidemment fait partie de la solution, parce qu'il faut trouver la pièce à laquelle le meurtre a été commis. Mais on se promène de pièce en pièce, il n'y a pas de changement, c'est vraiment juste des cases sur un plateau de jeu. Le roman permet effectivement de visiter, de faire la description des pièces, et là, moi, j'en reviens à mes premiers amours de lecture quand j'étais adolescent. Qui était Sherlock Holmes, Agatha Christie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le cozy mystery, et qu'on appelait avant le whodunit. On est dans des manoirs, on est dans des châteaux anglais, on est dans des comme ça qui sont très décrits et où les pièces participent même à l'enquête, sont très importantes. On pourrait parler aussi d'Arsène Lupin, par exemple. On est en France, on n'est pas en Angleterre, où on trouve des trappes, on trouve des compartiments secrets. Et moi, j'aime vraiment beaucoup jouer avec ça. Et c'est pour ça que dans cette série, j'en use. J'espère qu'il faut en abuser.
Non, en plus c'est un gigantesque manoir, donc on prend vraiment plaisir à l'arpenter. Et même le manoir, des fois, il se fait mortel. J'en dis pas plus. Donc je vais te remercier Bertrand pour ce petit moment d'échange eu sur Radio G, pour donner envie vraiment de lire tes clodos qui sont vraiment formidablement bien écrits.
Et merci.
Peut-être qu'une fois tu viendras en tant qu'invité au Festival Angevin de l'Imaginaire et du Polar, que nous organisons dans un lieu emblématique de la ville tous les ans ordinairement.
J'avais une petite question moi, pour Bertrand. Dans ta biographie aussi, tu as écrit « C'est toi le héros, les mystères de Pékin ». Est-ce qu'il y a un rapport avec un certain jeu de société auquel je jouais quand j'étais tout gamin?
Ah mais complètement. C'est le jeu des mystères de Pékin que j'ai adapté donc en livre interactif où on est un détective qui doit retrouver le bâton d'un maître du kung-fu et qui va donc aller d'abord voir le sage qui va lui dire quel témoin ment dans la liste. Ensuite, on va aller voir Madame Diamant, Monsieur Rialo, Monsieur Lipressing, Madame Lady Charming. Et ensuite à la fin, il faut se trouver sous quel dragon se trouve le coupable. Donc là, on est peut-être un petit peu plus jeune en âge que Credo, mais moi, ça m'a beaucoup amusé parce que c'est un jeu de société qui existe encore. Moi, j'y joue beaucoup avec mon fils et ma jeune fille. Ils aiment beaucoup. Donc, ça m'a beaucoup amusé justement de faire ce roman qui est peut-être un petit peu plus linéaire que les Credo, mais qui, dans lequel j'ai essayé aussi de mettre beaucoup d'humour et des courses-poursuites. Enfin, voilà, en respectant les règles du mystère de Pékin. Et en apportant une touche romanesque.
Et d'ailleurs, là, je viens de présenter à l'équipe, et je t'en ai parlé, il y a le Monopoly, c'est toi le héros, qui est sorti tout dernièrement. Donc encore un jeu célèbre, qui est traduit en livre-jeu.
Il y a toujours moyen d'adapter et de passer d'un support à un autre. Hein, donc, un jeu de société devient un roman-jeu.
Je te laisse le mot de la fin, si tu as une actualité là, du moment à nous confier là, sur Radio G.
J'ai la sortie chez Gulfstream éditeur du deuxième tome de ma série Kemio, qui s'appelle Les Chrysalides de Tunis. Le premier s'appelait Les Papillons de Kobe. C'est une enquête aux limites du surnaturel. Une adolescente de 13 ans qui entend parler les morts et qui se retrouve confrontée à un Japonais venu à Paris pour enquêter sur son passé. Et ce Japonais qui s'appelle Rieko, et il a une profession très particulière, une profession qui existe vraiment au Japon, qui est de s'occuper de redonner de leur identité, de la dignité aux morts. En fait, la population vieillit, il y a beaucoup de personnes qui meurent seules, sans famille, et donc parfois on a du mal à savoir, à retrouver des gens, etc. Et lui s'occupe justement de cela. C'est une sorte d'enquêteur post-mortem, et la rencontre entre cette jeune fille Loria et Rieko va déclencher des événements en cascade, et ces événements vont permettre de faire la lumière sur leur passé respectif.
D'accord, ça rappelle un petit peu Orient Extrême, parce qu'on a une anthologie qui est sortie cette année, donc ça nous rappelle un petit peu le Japon aussi. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Et franchement, si tu peux venir une fois à Imaginaire, t'es le très bienvenu ici.
Ce sera avec plaisir. Et puis pour rien vous cacher, c'est sympa de parler des Credo, de cette série en bibliothèque verte, parce qu'en fait, il y a beaucoup de journalistes, comme ça, la presse s'y intéresse pas forcément. Et pourtant, je pense qu'effectivement, il y a moyen de bien s'amuser. On peut dire plein de choses avec ces romans.
Mais à Imaginaire, on recule devant rien.
Ah, ça, c'est sûr.
Merci à vous.
Merci à toi.
Merci Bertrand.
À bientôt.
Au revoir.
On se remet un petit peu de musique sur le 100.5 avec un choix de Sébastien, c'est Stox.
Oui.
Avec Cocaine.
En live.
C'était un groupe en juin. Non, c'était un groupe de Lille.
J'ai compris un autre nom et je me suis trompé du coup.
Non, c'était un groupe de Lille qui a sorti 3 albums studio en fait, hein, au début des années 80.
2 albums.
Hein, ouais. Et là, bah, c'est une reprise de Gigi qui est là qu'on vient d'écouter, mais ils ont fait quand même la VF quoi. Allez, c'est l'heure de la chronique de Karine.
Lâchez-vous les petits doigts.
Nous, on peut danser autour de la table hein, pendant qu'elle fait la chronique.
C'est du cercle circassien, ça.
Ah. Si vous voulez, vous pouvez continuer à parler, hein, ça ne dérange pas. Je reviens pour vous conter une nouvelle chronique, celle de la ville, peu de temps après, de Pat Murphy, sous les éditions Les moutons électriques. Ce livre, c'est une aventure, un voyage. Pat Murphy nous emmène dans un futur pas si éloigné. Elle nous livre le récit de la vie à San Francisco à la suite d'une pandémie. Avec des personnages très énigmatiques, des artistes qui rêvent et veillent à ce que la ville reste belle à travers des fresques de couleurs face à la violence d'un homme avide de pouvoir, la ville n'est pas en reste car elle vit à travers sa propre magie. Nous allons découvrir une jeune femme n'ayant pas de nom et vivant à Sacramento, une des quelques villes où les habitants tentent de reconstruire une société saine. Un élément survient et l'amène à entamer un voyage jusqu'à San Francisco pour avertir les habitants de la ville d'une guerre imminente. Car le général Miles, aussi appelé 4 étoiles, est en chemin pour développer sa dictature partout sur son passage. Là commence une guerre, mais avec d'autres règles, une autre vision, celle d'artistes voulant répandre autre chose que le sang et la violence. Je vous laisse là-dessus. Et parlons de l'autrice à présent. Avec ce roman, elle navigue entre le post-apocalyptique et l'utopie. C'est en cela que ce récit est pour le moins étonnant et original, car au lieu de voir un monde détruit sans espoir de renaître, on observe avec une certaine contemplation comment une société peut potentiellement renaître de ses cendres. Pat Murphy met en valeur l'art d'une manière générale, mais également les personnalités artistiques, avec notamment les personnages de la machine, une personnalité atypique mais néanmoins surprenante, Dandy Boy, un homme sensible, rêveur et enthousiaste à l'idée de créer quelque chose de merveilleux, Bouquin, un passionné de littérature, Madame Mixdal, une historienne pleine de savoir. Tous ces personnages créent à eux seuls un élan d'utopie, d'idéalisme qui les reste rêveurs et donne la possibilité d'un monde meilleur. Pat Murphy est une autrice américaine connue pour ses écrits en science-fiction et fantasy. Elle a remporté plusieurs prix, dont notamment 2 fois le prix Nebula en 1987.
Ah oui, c'est pas une gamine non plus.
Et non. Et c'était pour son roman La Cité des Ombres et pour sa nouvelle Rachel in Love.
Mais là, du coup, ça sort chez les Moutons Électriques, mais est-ce que c'est un vieux roman ?
C'est une réédition.
Ouais.
Effectivement. Que je vous invite à découvrir. Et elle finit par confronter
pour répondre à ta question, ouais. Je suis désolé. Ouais.
Oui, est-ce que c'est souvent écrit la première page?
La publication anglaise a été faite en 89.
Ah ouais, ok.
C'est pas tout jeune, tout jeune.
Ben non,
quoi.
Ok.
Oui, mais c'est pas parce qu'on n'était pas né que le roman est mauvais. Hein.
Je te prends comme exemple, plus c'est vieux, moins c'est bon. Hein.
Si, ça se vieillit, ça se bonifie, comme on dit.
Laisse parler la petite.
Mais c'est bien, moi j'aime bien que voilà, les Indés de l'imaginaire vont aussi chercher des romans il y a une trentaine d'années, une vingtaine, une dizaine, pas forcément des trucs qui viennent d'être écrits il y a un an.
C'est d'ailleurs la spécificité des Moutons Électriques, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une maison d'édition spécialisée dans la réédition de choses plutôt, pas élitistes on va dire, mais quand même des choses assez pointues, et puis surtout pas mal d'essais, pas mal de biographies fictives, pas mal de guides, de choses comme ça. Enfin,
Mais ils ont aussi des nouveautés.
Oui, françaises en général. Ah ouais, les étrangers en général, c'est pas les inédits qu'ils font.
Ok.
Laisse parler la petite.
Arrête de dire ça. Elle finit par confonder le prix James Trippy, Type Tree, pardon, ah oui. Avec Karen Jolfoll. Et je vous invite donc à découvrir ce roman qui fait réfléchir sur des notions d'humanité et de société tout en poésie et bien sûr ses autres œuvres. Pour la suite, je vous laisse avec la musique Song of Women du groupe The You en featuring avec Lizzie Hall du groupe Alestorm sur Radio G.
Et de où ? C'est un groupe qui vient de
Mongolie. Ils font du hard rock mongol et je vous avais passé 2 musiques.
Ouais,
il y a
eu ouais.
De The You. Ils étaient venus à un
Karine
moment
le dit mieux,
fait,
hein.
Je crois. C'est génial, c'est vraiment génial. Allez voir ça, juste regardez les clips, vous les voyez avec des instruments typiques artisanaux de Mongolie sur des Harley Davidson en plein milieu du désert de Gobi en train de faire du hard rock. C'est juste magique.
Allez, c'est parti. c'est l'heure de la nouvelle rubrique de Julien dans Imaginaire sur le 101.5, les fantastiques années polaires.
Fantastiques années polaires. Décidément, j'aime de plus en plus cette chronique entre polar et imaginaire au pluriel. Pour cette nouvelle incursion, je vous propose de vous plonger dans les miracles du bazar Namiya de l'auteur japonais Keigo Higashino. C'est chez Babel. Alors, bon, les lecteurs de romans policiers, ils le connaissent bien, Keigo Higashino. 7 de ses romans ont été publiés dans la collection Actes Noirs des éditions Actes Sud. La plupart du temps, le romancier nous embarque dans des intrigues à la construction presque parfaite, parfois excellente, souvent étonnante. Ses personnages sont toujours bien campés. Il a un univers bien à lui. Changement radical de décor avec ce roman. Mettez-vous dans l'esprit que le roman japonais est bien souvent teinté d'onirisme et de fantastique. Vous avez peut-être déjà lu certains écrits d'Haruki Murakami, alors vous comprenez sans nul doute ce que je vous dis. Ici, tout débute dans la nuit du 12 au 13 septembre. Shota, Koei et Atsuya, trois cambrioleurs, entrent dans un vieux magasin, le bazar Namiya, pour y passer la nuit après un cambriolage qui ne s'est pas tout à fait bien passé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une annonce sur Internet a fait mention de la réouverture exceptionnelle pour une nuit seulement du bazar. Alors, retour en arrière. 33 ans auparavant, le vieux Namiya meurt. Il laisse derrière lui son bazar et surtout ce qu'il faisait à côté sur ses vieux jours. Il avait pris pour habitude de donner des conseils. Les gens venaient déposer dans sa boîte aux lettres des missives dans lesquelles il lui soumettait un problème de vie. Lui prenait la nuit pour leur répondre et déposait à son tour, mais dans la boîte à lait, c'est-à-dire à l'arrière de sa boutique, les lettres avisées, quoique emplies de doutes. C'est ainsi que durant quelques années, il avait pu prendre sur lui les soucis de gens anonymes. On suivra d'ailleurs dans le récit 5 de ses trajectoires, tel Shortcuts de Robert Altman à la sauce Italo Calvino dans Si par une nuit d'hiver un voyageur. Vous l'aurez compris, le bazar baigne dans une aura fantastique. Le passé et le présent se rejoignent d'une étrange manière. Nos trois cambrioleurs ne tardent pas à recevoir des lettres de remerciement auxquelles ils vont répondre, non sans s'apercevoir qu'elles proviennent du passé. Surtout, ils vont comprendre que le temps semble s'être figé dans le bazar alors qu'il se déroule normalement à l'extérieur. Chacun des brigands n'a pas la même personnalité. Chacun va pourtant prendre le temps de se plonger dans les univers des protagonistes anonymes qui leur font parvenir des lettres. Et ce, même si elles ne leur sont pas personnellement adressées. Ce qui importe dans ce roman, ce n'est pas tant la résolution des problèmes, ni le paradoxe temporel. Non, c'est bien l'atmosphère qui inonde cette histoire. Le roman est transgénérationnel. Il pose les bases d'un Japon ancestral confronté à une évolution rapide du monde. Il s'arrête sur le dépassement de soi, sur la culture familiale et sur l'altruisme. Il y a deux points névralgiques. Le bazar est un foyer et une direction. Chacun est maître de son destin et il suffit d'un rien pour qu'il bascule dans un sens ou un autre. C'est que du basique, me direz-vous. Certes, certes. Mais il y a chez Keigo Higashino une teinte d'humanisme, d'onirisme et de subtilité qui fait que ce roman-là en particulier reste longtemps ancré dans votre mémoire. Et ça, c'est franchement bien. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, c'est chez Babel. Prenez le temps.
on écoutait Goriot sur le 100.5. C'est un Français qui fait ça.
Et bah, on était en train de s'endormir.
Ça berce.
Il fait de la mauvaise foi.
Le morceau
esprit,
Exorcisme qui était tiré de son premier album, Goriot d'ailleurs.
C'est le père Goriot, hein,
c'est... Ouais, c'est le père Goriot, ouais. Du kabuki ambiante, il paraît. Julien Lacroix qui a plein de projets, dont celui-ci. Alors, c'est l'heure de la chronique de Pierre-Marie.
Non, je veux pas, pitié.
Pourquoi?
Je sais pas.
Non, ah, en fait, c'est parce que t'as pas eu ton jingle.
Et voilà. J'ai eu mon jingle.
Bah voilà, alors.
Pour le coup, dès qu'il y a mon jingle, moi je suis beaucoup plus en forme et là je suis content de faire ma chronique. Tu vois, ça change tout. C'était l'élément qu'il me manquait. Mais avant de faire la chronique, j'aimerais bien faire un petit aparté parce que les éditions Bragelonne nous ont envoyé des services de presse que je voulais vous montrer à la radio parce que sinon c'est pas drôle, dont je voulais vous parler. Alors, outre un pavé que je garde pour la fin, les éditions Bragelonne ont décidé de nous faire parvenir le début de leur nouvelle collection qui sont la carte de l'univers.
La cartographie de l'imaginaire.
Non, oui, la cartographie de l'imaginaire.
Donnez-lui ses lunettes.
C'est vrai. Oui, mais parce que je ne lisais pas la bonne ligne, c'est pour ça. Du coup, sous-titre,
ça, c'est le titre de
la carte de l'univers. Voilà. Et en fait, ils ont décidé de prendre des grands cycles de l'imaginaire qui se passent dans de la fantaisie parce que un des symboles reconnaissables que vous lisez de la fantasy, il y a une carte au début.
Notamment des trucs qui vendent. Hein.
Et voilà. Et donc, ils ont décidé d'éditer de belles cartes pour que vous puissiez situer un petit peu ce qui se passe. Alors, ce n'est pas à destination uniquement des cycles de littérature. Ce sont des cycles de littérature qui ont aussi été transposés sous d'autres médias, à savoir des films, des séries, puisque là, les deux premiers matières de cette collection sont Conan, la carte de l'univers, ce sont les romans de Robert et Howard, mais qui ont été vachement démocratisés grâce à Schwarzenegger, Conan le Barbare.
Pas seulement, avant, il y a eu aussi les bandes dessinées.
Alors, je sais pas qu'est-ce qui a fait le plus de bien à la médiatisation de Conan. Bah, pour
c'est
moi,
quand
ça
même
reste
probablement le film de John Milius.
Comment il s'appelle Ah oui, John Milius, c'était très bon, oui, c'est vrai. Oui.
Et puis, Sorceleur, puisqu'il y a la série
alias The Witcher.
The Witcher, exactement, c'est exactement en français Sorceleur, en anglais Witchers. Et la deuxième saison va bientôt sortir, donc c'était le moment de sortir une carte. En beau papier, ce sont des cartes qui sont en A3 quand même, donc ça vous prend tout un mur, et puis vous pouvez suivre un peu, enfin quand je dis tout un mur, faut pas déconner, hein, je suis quand même marseillais.
Moi, j'aurais plutôt dit A2, mais bon.
Ou A2, oui, c'est la taille d'une affiche.
Et ce sont aussi deux univers qui ont été adaptés en jeu de rôle, donc voilà, je pense la belle carte au milieu de la table pour le maître du jeu. Et
non, au milieu de la table, c'est là où tu as les personnages. La carte, tu l'as à côté pour savoir où tu te diriges avec le groupe, mais tu l'as pas au milieu de la table.
Ah bon, moi je la mets toujours au milieu de la table.
Oui, tu mets les personnages dessus. Ah oui, mais c'est un peu petit. Hein.
Du coup, à côté de ça, nous avons reçu un livre, puisque oui, les éditions Bragelonne continuent à éditer des livres qui se lisent, j'entends. Et c'est une réédition, un pavé, un petit peu sous le même format que les éditions bouquins, avec le papier bible au milieu et la couverture semi-cartonnée. Et là, il s'agit d'une réédition de Cuchiel, la série de Jacqueline Carré. Jacqueline Carré et Cuchiel est sortie en 2001 à la base, 2008 pour l'édition française. Et là, en 2021, nous avons une sorte d'intégrale, puisque ce sont les trois premiers tomes du cycle de Cuchiel qui sont
d'accord, c'est pour ça que ça fait 1000 pages.
Exactement. Pour endormir les enfants, il n'y a pas de souci. Je vous le conseille, un coup suffit en général, et le papier souple, ça ne laissera pas de marque. À côté de ça, je vais vous parler quand même de mes lectures, parce que Cuchiel, j'ai lu ça, mais il y a très très longtemps. Oui, il y a eu une époque où j'étais jeune, avant que vous faisiez de la mauvaise foi. Et je vais vous parler d'une de mes autrices que j'adore, et non, ce n'est pas Audrey Plénet, non, il n'y a pas de rapport avec Audrey Plénet, mais ça
Audrey, si tu nous écoutes.
Tu n'es pas une autrice que j'adore. Je vais vous parler d'Estelle Fay, que nous avions pu recevoir au Geekfest, et avec qui j'avais pu échanger, puisque le livre que je tiens dans les mains est sorti il y a pas très très longtemps.
Estelle qui revient au prochain Salon Imaginaire.
Qui revient au prochain Salon Imaginaire, tout à fait.
Et Audrey aussi d'ailleurs.
Il n'y a pas très longtemps, c'est sorti en octobre 2020, mais tout le contexte sanitaire fait que c'est arrivé dans mes mains très récemment. Et là, je vais vous parler de Le Drakkar éternel. Tadam ! Alors, si jamais vous vous en doutez, sur la couverture, il y a un Drakkar. les bateaux vikings. Et si jamais vous avez le moindre doute, ce roman va parler de vikings. Mais on va suivre deux personnages, deux jeunes enfants, Astrid et j'ai perdu son nom à Gonzague.
Thor ?
Non, il s'appelle pas Thor, faut pas déconner. Je ne sais plus, je vais le retrouver.
Ça fait longtemps que tu l'as lu aussi.
Surtout, je l'ai lu. Alors, c'est un livre de jeunesse et du coup, je l'ai lu en 2 heures de train. Donc ça se passe très vite. C'est vraiment adapté au début collège, enfin les enfants de début collège. Ça se lit très vite, ça embarque, c'est vraiment top. J'arrive pas.
Non mais c'est pas grave, allez. Hein.
Ben, voilà. Ben non mais c'est pas drôle, c'est si jamais.
T'en gales.
Ben j'étais presque.
Je te dirais pas t'as tort, mais Gale. On n'est pas loin. Hein. Non mais en plus il parle toujours la première personne. Bref, on s'en fiche. Voilà, on va suivre un personnage qui est un petit peu le geek au collège. Donc petit, lunettes, avec beaucoup de livres, pas beaucoup de potes, qui se balade et...
C'est pas Maël ?
Sérieux ? Eh ben oui, c'est Maël. Merci, heureusement que tu es là, Patrice.
Bah, c'est sur la quatrième de couverture, lire. Voyons.
Mon regard a été attiré par Astrid et pas Maël. À toutes les Maëlles, petite pensée pour vous. En plus, c'est épicène comme nom. Bref, Maël est un geek et sa meilleure amie, c'est Astrid. Alors, c'est un garçon manqué. C'est une jeune demoiselle, même âge que lui, mais qui va de famille d'accueil en famille d'accueil, puisque c'est une personne orpheline qui n'a pas eu de chance dans la vie, mais qui est très bien sous tout rapport, excepté que, comme c'est un garçon manqué, elle a tendance à rentrer dans le tas, et le tas forme un groupe de 3 autres garçons qui ont tendance à martyriser Maëlle. Maëlle, jeune, faible, Astrid, grande, baraque, qui défend Maëlle, pas de souci. Sauf que voilà, une fois de trop, elle a décidé de rentrer dans le tas, et elle a commis une exaction pendant le collège qui n'est pas répréhensible autrement que moralement, ce qui fait qu'elle risque de se faire renvoyer du collège et que sa famille n'en peut plus d'elle, sa famille d'accueil, et décide de la dégager. Et oui, les enfants accueillis, c'est un petit peu comme les surgelés, vous pouvez se rembourser, il n'y a pas de souci. Pour se changer les idées, ils partent faire de l'optimiste sur la Manche, puisque ça se passe en Normandie, terre des Normands, et là, il y a du brouillard qui arrive, et ils se retrouvent dans un monde alternatif. Nous allons donc suivre les aventures de ces deux personnages-là, et oui, c'est un roman de fantastique.
Et il y a une carte.
Exactement. Et si tu regardes bien les cartes, ce sont les 9 mondes vikings qui sont représentés sous forme d'archipel, puisque au centre, Yggdrasil, l'arbre monde des vikings, et autour, les 9 îles qui représentent les 9 mondes sur lesquels vont voyager les enfants. Ce roman est donc extrêmement intéressant, d'abord parce que l'histoire embarque, et ensuite parce qu'il présente toute la mythologie viking, qui est très éloignée du Thor que vous pouvez voir dans le Marvel actuel. Là, on va vraiment suivre les mythes vikings vus par des enfants, donc plutôt édulcorés, même si derrière, on sous-entend quand même des choses, puisque les mythes vikings font partie des plus atroces qu'il puisse exister, hormis le côté volage de Zeus, mais ça, c'est autre chose.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Grec. Ouais. Ben oui, mais les vikings, c'est quand même les plus horribles de toutes les mythologies. Et la seule autre exception, c'est le côté volage de Zeus, qui n'est pas viking d'ailleurs.
D'accord.
Bon. J'avais compris.
Moi, pas du tout.
Merci. Mais c'est parce que moi, je parle pour les initiés, c'est pour ça. Ce roman est donc trouvable dans toutes les bonnes librairies. C'est édité par les éditions Scrineo, que je remercie. Ça fait partie de leur catalogue plutôt jeunesse, comme je disais. On est vraiment sur début collège, fin école pour les bons lecteurs. Un peu plus tard, c'est bien, ça embarque. Mais comme je vous disais, en 2 heures de temps, c'est plié. C'est pas très rentable. Et dans toutes les bonnes librairies, vous le trouverez à la modique somme de 14,90€. Pas de souci pour ça.
Et donc, si vous voulez le faire dédicacer, rendez-vous les 27-28 novembre à Angers, au Salon Imaginaire.
Puisqu'elle sera ravie d'en parler, ça fait partie de la mythologie qu'elle adore. J'ai le temps ?
Mais ouais, t'as le temps.
Scrineo, on reste chez Scrineo. Ouais. À côté de ça, Scrineo, les éditions Scrineo...
Un autre pavé.
Exactement. Ah oui. Alors là, on n'est pas sur un pavé, on est sur un cale-porte. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de souci. Et ça fait partie une autre de mes autrices que je préfère, sauf que... Le Drakkar faisait péniblement 300 pages.
Mais c'était pour les jeunes.
C'était pour les jeunes, 226 pages. De l'autre côté, nous avons 639 pages.
Pour les vieux.
Pour les un peu plus adultes. Florian Soulas.
Ah oui, c'est du papier plus épais alors.
Voilà, c'est exactement ça. Florian Soulas, que vous avez peut-être connu puisqu'elle a sorti Rouille. son premier roman qui avait récupéré tous les prix, prix AccuSF de l'Uchronie en 2018, prix Chrysalis, European Society of Science Fiction en 2019, prix Imaginal des lycéens en 2019. Et puis après, elle avait sorti un autre roman qui avait été extraordinaire, mais qui était passé un peu plus invisible. Après Rouille, c'était difficile de faire mieux, qui était Les Noces de la Renarde, que j'avais beaucoup aimé, sur la mythologie, le fantastique japonais. Et là, elle a décidé d'ouvrir une collection chez Scrino. Plutôt, Scrino a des idées d'ouvrir une nouvelle collection et a pensé à Floriane Soulas pour la collection science-fiction. Rappelez-vous, Scrino, dans les années 2018, avait voulu tenter une collection science-fiction sous le contrôle de Stéphanie Nico, qui avait été très vite arrêtée puisqu'il y avait eu juste une sortie des Époux Bellemare et de Léo Henry, et ça s'était arrêté tout de suite. Bah. Là, en 2020, on relance cette collection de manière un peu différente. Premier tome, Floriane Soulas, deuxième tome, Pierre Bordage. On est quand même sur pas du petit. Et là, on va suivre un personnage, Ekaterina, avec un nom imprononçable derrière, qui nous vient d'Uranus. Et oui, à cette époque-là, dans ce roman-là, l'espèce humaine a colonisé l'ensemble des planètes du système solaire, Platon compris, excepté une, Jupiter. Et nous allons suivre ce personnage-là qui est spécialisé dans les orages magnétiques et qui décide de se rendre sur la bordure de Jupiter, puisqu'il s'y passe pas mal de choses que je vous laisserai découvrir dans le bouquin. Elle est à la recherche de son frère jumeau qui a disparu, Pavel. Et Catalina et Pavel, ça reste des noms assez slaves. Je vous conseille de le lire parce que autant le premier il a embarqué en 2 heures, il était fini, autant celui-ci il a embarqué en 2 heures, il n'était pas fini. Vraiment, c'est la plume est maîtrisée, l'ambiance est immergente, je vois pas d'autre terme que ça. On vit dans une sorte de dépotoir de l'espace qui est un conglomérat d'épaves de vaisseaux spatiaux scellés entre eux, qui à la base était une prison pour l'ensemble de la civilisation humaine et finalement est devenu le dépotoir de tous ceux qui cherchent à s'oublier. Il s'y place plein de choses. Il est haletant, on a envie de secouer un petit peu le personnage en lui disant « mais tu fais que des conneries » et finalement c'est elle qui a raison. Ça surprend le lecteur, ça immerge totalement, ça dépayse totalement. Et surtout, on reste sur des théories de science-fiction, donc de la science dure, puisque je rappelle que Floriane Soulas est ingénieur en aérodynamique. Et vraiment, il y a des choses qu'elle embarque dedans, qu'elle explique et qu'elle vulgarise. C'est génial. Voilà, j'ai rien d'autre. Le premier tome, Le Dragueur Éternel, si vous voulez apprendre un peu sur la mythologie et voyager un petit peu le temps de vous détendre. Ici, si vous voulez vous prendre la tête, mais apprécier la manière de se prendre la tête, j'ai rien de mieux. Ça s'appelle Les Oubliés de Lama, toujours chez Scrineo, nouvelle collection Scrineo SF, et ça coûte 21 euros. Vous retrouverez aussi Floriane Soulas à Imaginaire le 27 et 28 novembre.
Est-ce qu'il y a une carte au début ?
Eh ben non.
Enfin, c'est, oui, c'est de la science-fiction.
Si,
voilà,
si,
c'est ça.
Il y a une carte, mais c'est la carte du système solaire. Du coup,
parce qu'en fait, des fois, quand on veut dire la différence entre fantasy, science-fiction et Patrice, on s'est dit, mais on garde s'il y a une carte, en fait. C'est ce qu'il y a de plus simple. Là, il y a quand même une carte. Allez, un petit peu de musique sur le 100.5 avant de retrouver la chronique de Patrice.
Je
bien, on n'ira pas jusqu'au bout de ce morceau de Dale Cooper Quartet and the Dictaphones, ce qui vous donne quand même un petit indice pour ceux qui savent apparemment.
Oui, pour les fanatiques.
De
les
quoi qu'il va nous parler, Patrice, comme vieille série télé, enfin vieille.
Je vais vous parler de Twin Peaks. Twin Peaks. Alors, quand on parle de Twin Peaks, hein, la première question qu'on entend chez ceux qui ont un tant soit peu entendu parler de cette série diffusée à partir de 90, hein, ce qui ne nous rajeunit pas, la première question donc c'est celle-ci. Qui a tué Laura Palmer ? C'est souvent ce qu'on entend. Hein, Alors pour ceux qui ont vu les deux saisons d'origine, cette question reste finalement secondaire au regard de la richesse scénaristique de l'histoire.
Moi j'ai vu le film et je sais qui et j'ai vu que le film.
Ah oui, mais moi j'ai pas. Alors le film, ça, je crois que c'est les 7 derniers jours de Laura Palmer, donc c'est avant la première partie de la série. Mais j'ai pas encore vu le film, hein. je l'aurai demain. Donc voilà. Pour ceux qui ont vu ces deux saisons d'origine là, la question qui a tué Laura Palmer reste finalement secondaire au regard de la richesse scénaristique de l'histoire, parce qu'il y a tellement de choses qui s'entremêlent qu'on pourrait presque croire que David Lynch et Mark Frost écrivaient à l'instinct l'épisode suivant. C'est d'ailleurs peut-être ce qui s'est passé, parce que quand on écoute des interviews d'acteurs qui parlent de cette série, ils disent finalement leurs personnages étaient assez peu décrits, on les laissait les interpréter de manière assez libre. Alors, reprenons. Je vais essayer de me lancer dans un exercice difficile, vous parler un petit peu de Twin Peaks sans rien vous révéler de crucial. Faites-moi confiance. Je vais simplement essayer de vous faire ressentir l'ambiance de cette série à travers quelques aspects décalés, propres à justement ce genre un peu bizarre. Alors, Twin Peaks, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite ville proche de la frontière canadienne qui compte 51 201 habitants. Enfin, c'est, si l'on en croit le panneau qui se trouve à l'entrée. Enfin, 51 200 si l'on tient compte du fait qu'on a tué Laura Palmer. Je ne vous l'apprends pas. Par certains côtés, cette ville possède le même aspect carte postale que l'endroit où se déroule l'intrigue de Blue Velvet, un autre film de David Lynch. Un grand hôtel, une usine, un shérif, un resto, ou plutôt d'ailleurs un fast-food, une station-service, rien que de très ordinaire, et une grande forêt, ce qui n'est pas anodin puisque ça permet de faire des suppositions réelles ou fictives sur ce qui s'y passe ou ne s'y passe pas. Si on y rajoute des habitants vêtus comme dans les années 50, on obtient quelque chose de très kitsch, à la limite de la caricature. Là où ça se corse, et c'est d'ailleurs pourquoi il est impossible de résumer l'histoire, c'est que tout le monde ment plus ou moins. Tout le monde trompe quelqu'un, qui a un conjoint, qui a un associé, et j'en passe. Et bien sûr, seul le spectateur omniscient est au courant. Enfin, progressivement. Alors, la multitude de ces mini-intrigues qui se croisent, parfois sans lien entre elles, ou qui se télescopent pour en créer des liens, si vous me suivez bien, rend particulièrement ardu le suivi de l'intrigue principale. Si tout au moins, il y en a une. Ajoutez à cela que tout le monde, ou presque, a un petit grain de folie, voire un gros pour certains, et vous obtiendrez un cocktail très étrange qui peut décontenancer le spectateur. Prenons Dale Cooper, l'enquêteur du FBI, par exemple, admirablement joué par Kyle MacLachlan. Passons sur ses méthodes intuitives d'enquête qui le conduisent à lancer des cailloux sur des bouteilles. Ça nous entraînerait trop loin. Mais l'utilisation de son dictaphone m'intrigue au plus haut point. Il enregistre régulièrement des commentaires, voire des demandes qui sont suivies des faits, pour une certaine Diane, qu'on suppose être son assistante. Mais pas un instant, pas un seul moment, on ne le voit transmettre ses enregistrements, à tel point qu'on a l'impression que cette Diane, elle est fictive. Et pourtant, il y a des choses qui se passent derrière, quoi. Alors ça sert à rien, je vous le rassure tout de suite, hein, ça sert à rien pour la résolution des différentes affaires dont je vous ai parlé plus tôt, enfin, dont je vous ai évoqué plus tôt. Ça fait partie du personnage de Dale Cooper, c'est tout. Et ça crée cette forme de décalage qui est la marque de fabrique de la série. Et d'ailleurs, vous comprendrez maintenant pourquoi ce groupe brestois Dale Cooper Quartet and the Dictaphones ont particulièrement bien choisi leur nom.
Et d'ailleurs, leur musique ressemble beaucoup quand même à celle d'Angelo
Badalamenti, oui. Ou Badalamenti, je ne sais plus dans quel ordre.
Comme d'autres groupes de cette scène qu'on a appelé Dark Jazz, notamment les Allemands de Bohren und der Club of Gore.
Alors voilà, donc voilà un groupe qui a pris Twin Peaks comme
référence,
référence à son nom. Ouais. Oui. Alors les autres personnages ne sont pas plus... sont pas moins étranges, je dirais. Je pourrais vous parler d'Andy, l'adjoint du shérif, qui pleure sur les scènes de crime. De Nadine, qui n'a qu'un œil et se prend pour Superwoman. De Harold, l'agoraphobe amateur d'orchidées. de Catherine, Josie, Norma, Audrey. Enfin bon, ah Audrey, bon, prêt. Je n'en dirai pas plus. Ça nous entraînerait trop loin et je risquerais de vous révéler des choses que vous n'avez pas envie de savoir si vous avez l'intention de regarder la série. Tout ça, c'est bien, me direz-vous, mais est-ce que cette ambiance, ça crée une vraie série ? Eh ben oui, car les intrigues sont bien ficelées, les coups de théâtre nombreux et cohérents, enfin, quoique. Les personnages attachants, malgré leur folie. Tout cela sur un fond d'ésotérisme qui n'est pas pour déplaire à l'amateur de fantastique que je suis. Alors, qui a tué Laura Palmer ? Ne comptez pas sur moi pour vous le dire, mais au milieu de tout ça, je crois qu'on s'en fout un peu.
Eh bien, merci Patrice pour cette chronique. On va parler de l'agenda. Maintenant, il nous reste 2 minutes sur Radio G. Sébastien, tu avais des choses à annoncer ?
Oui, rapidement. Donc là, ce dimanche, j'ai été donc faire des jeux de société vraiment étonnants, des jeux asiatiques tels que le bingo japonais, le jeu de dames chinoises. Et c'est organisé par l'association Amitié Angers-Asie de l'Est, alors des plus amicales, vraiment. Et donc, ils organisent ponctuellement, comme ça, des parties de jeux de société ouvertes à tout le monde et gratuites. Les prochaines, ce que m'a dit le président, vont avoir lieu les dimanches 7 novembre et 5 décembre. Et pour toute information, inscription et tout, retrouvez-les sur leur page Facebook Amitié Angers-Asie de l'Est et vous ne regretterez pas cette découverte de surprenants jeux.
Et puis aussi, on va rappeler qu'il y a le financement participatif du hors-série spécial Loup solitaire du Marteau et l'Enclume qui se termine dans quelques heures. Donc un webzine consacré voilà, à cette célèbre série.
À tout l'univers de Loup solitaire avec des interviews aussi inédites du fils de Joe Dever.
Et donc, ces gens aussi, on les a interviewés et on écoutera ça probablement dans notre prochaine émission, dans 2 semaines sur le 101.5. La grosse actu pour les littératures de l'imaginaire, ce sont les Utopiales, du 29 octobre au 1er novembre. Le thème, c'est transformation. On en reparlera dans notre prochaine émission. On aura le temps ou pas? On les convient là. J'ai un gros doute. Non, la prochaine émission, c'est le 4 novembre. Donc, on aura 2 envoyés spéciaux là-bas, Karine et Pierre-Marie.
2 novembre.
Ouais, notre prochaine, donc ce sera juste le lendemain en fait. Donc Karine et Pierre-Marie, on espère que vous allez rentrer.